cobuzz.com. L'écoute comparée, Classica. Animé par Bertrand Dermoncourt.
Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle écoute en aveugle Classica. Aujourd'hui autour de la table, Bertrand Dermoncourt, Xavier Rey et Éric Taver pour entendre la sonate de Franck. Xavier, vous avez préparé cette écoute, vous avez écouté combien de versions ?
Une soixantaine, exactement 56. J'ai pu lister environ 180 versions.
D'accord. Donc sur ces 180 versions, on va en retenir 10 là.
Sur les 56, j'en ai retenu 10.
Hein. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un violoniste dans la sonate de Franck ? Et d'un pianiste aussi.
Ah oui, alors c'est très important. C'est une sonate, hein, donc le violon compte autant que le piano. Hein. C'est une sonate pour violon et piano. Il y a certaines sonates antérieures qui ont été écrites pour piano et violon. Celle-là était bien pour violon et piano. C'est une sonate dans laquelle l'équilibre violon-piano joue énormément. C'est une sonate très riche, qui est cyclique. On retrouvera toujours un petit thème. Mmh. Dans les mouvements, dans les quatre mouvements, un petit thème qui est varié, qu'on ne connaît pas forcément très facilement. Hein. Sonate très riche, très dense, très intense, avec beaucoup de passion, mais aussi beaucoup de tendresse. Un mouvement très véhément qui est le second mouvement.
Donc sur les quatre
hein. Sur les quatre, oui. Mmh. Et un troisième mouvement qui est assez spécial. Qui est une sorte, il s'appelle Recitativo Fantasia, qui est une sorte d'improvisation. Mmh. Hein, voilà. C'est pas de gros problèmes techniques pour le violon. Pour le piano, énormément. C'est une sonate très difficile au piano. Beaucoup de notes pour le pianiste. Hein.
Ouais, le deuxième mouvement et le dernier aussi.
C'est particulièrement
difficile, oui. Même si ça n'a pas l'air si difficile que ça.
Même le premier mouvement, c'est très difficile pour le piano. Pour le violon, il n'y a pas de gros problèmes techniques. Bon, il y a des notes dans le suraigu, mais c'est...
Donc ce qui compte, c'est le caractère.
Voilà, c'est le caractère. Ne pas tomber... comme ça se fait un peu trop souvent dans le germanisme et dans l'imitation de sonates de Schumann ou surtout de Brahms. Hein.
Ou ne pas tomber dans le larmoyant aussi, parce que c'est aussi un penchant possible dans cette sonate.
Ça, c'est possible, surtout dans le début du premier mouvement. C'est une caractéristique.
Hein. Alors, on va l'écouter, justement. Première version.
Première Allons-y. Version. Thank you.
qu'est-ce qu'on peut penser de cette première version ?
Bah, c'est évidemment une version qui n'a pas été enregistrée hier, qui est assez ancienne. On entend le souffle et puis surtout on entend un style du violon avec du portamento, qui est un style qui peut paraître vieilli. Moi je trouve que ça passe très très bien ici, parce qu'il y a vraiment une incroyable souplesse de ce violon. Il y a très souvent marqué Dolce, voire Dolcissimo sur la partition. Et ça colle très bien avec. Les deux partenaires en plus avancent dans la, exactement dans la même souplesse. Et il y a un piano aussi qui est très doux, qui fait des arpèges, quand c'est pas toujours écrit non plus d'ailleurs. Mais peut-être c'est un peu debussiste tout ça, ça manque peut-être un peu de passion. Et pourtant le violon a cette présence toute simple que moi j'aime beaucoup en tout cas.
Xavier ?
Oui, c'est vrai que c'est un style de violon un peu vieilli. Parler de portamento, moi, ça, oui, mais ça ne me gêne pas, parce qu'il ne tombe jamais dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le larmoyant. Ça n'est absolument pas ça. Moi, je trouve beaucoup de tendresse et, dans cette version, enfin, dans ce premier mouvement, et surtout un très beau dialogue, très bel équilibre, violon-piano, ils s'entendent très très bien.
Oui, ils sont sur la même longueur d'onde.
Ah ça, absolument, ils avancent ensemble, hein. Ils avancent bien et ils avancent ensemble. Et vous parliez de Debussy, moi je trouve que c'est effectivement très français ce qu'ils font.
Oui, puis il y a un caractère intimiste peut-être qu'on ne s'attend pas à trouver tout de suite dans la sonate de Franck, on a une image peut-être plus de... Sonate un peu symphonique.
En fait. Oui, un peu de bravoure même.
Oui, pas trop dans ce mouvement quand même.
Hein. En tout cas, là, c'est très convaincant. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire dans les suivants.
La bravoure, elle est surtout dans le second mouvement, hein, là-dedans.
Alors, on va écouter la deuxième version.
La deuxième version. Thank you.
Alors Xavier, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est une version que je trouve très, très claire, très lumineuse. Avec un piano un peu fantaisiste, je trouve, mais enfin bon...
Prend un petit peu ses 16 avec la partition.
Voilà, Foucault, voilà, oui. Alors que le...
Moi j'aimerais bien qu'il en ait un peu plus de fantaisie, parce que je trouve un peu pâle quand même. Hein.
Oui, c'est là où je trouve un peu un déséquilibre entre le violon et le piano. Le pianiste est un peu pâle par rapport à ce violon qui est très clair, très lumineux. Mais
parce qu'il est bien enregistré aussi. Contraste avec ce qu'on vient d'écouter.
Alors, est-ce que ça vient du pianiste, ça m'étonnerait plutôt de l'enregistrement. Mmh. Hein, connaissant le pianiste, ça m'étonnerait que ça soit. Je reconnais.
On va pas le dire, hein, Xavier. Hein,
parce
que nous, on n'a pas reconnu.
que ce soit le style du pianiste. Hein. Mais je trouve que quand même, ils avancent bien tous les deux dans la même direction.
Moi, je trouve que c'est un peu sage quand même, non ?
Oui, un peu sage.
Enfin, je trouve que le pianiste finit un peu par plomber le violon, comme on dit, c'est-à-dire que moi, je trouve que ça finit par tourner en rond. Hein, et le violon qui au début justement on apprécie bien son espèce d'intensité mais très sereine et très juste palpable quoi
oui,
comme
puis
ça.
Il y a des attaques bien franches et puis au fur et à mesure effectivement ça devient précautionneux quoi.
Il a un grand violon très 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 beau, d'une sonorité très beau. Et c'est vrai que le piano derrière est un peu...
Ouais, mais même le violon, à la fin, je trouve, finit par un peu lui aussi tourner en rond, à reproduire un peu les mêmes façons de faire. C'est pas... Vous parliez de fantaisie tout à l'heure, moi je trouve que c'est une version qui manque de fantaisie, pour l'instant.
On est d'accord. Alors on va écouter la troisième.
La troisième. Thank you.
extase, littéralement.
Oui, bah, d'habitude, on coupe un peu les versions quand on les aime pas tellement. Là, c'est tellement évident que c'est formidable qu'on s'est arrêté un peu avant les autres. Non, il y a d'abord et avant tout, je crois, un violoniste extraordinaire, absolument rayonnant, tout, sans faire d'ailleurs beaucoup d'efforts. Moi, je trouve que surtout, ce qui est fascinant, c'est qu'il trouve en permanence des couleurs sur ses différentes cordes, sur ses différents vibratos. Ils arrivent à créer un sentiment d'attente. Le début est exceptionnel, complètement
plein de
mystère.
Très mystérieux.
Levé du jour.
Conclusion, on a une formidable nostalgie ici. Mais c'est un peu l'inverse finalement de la version qu'on a entendue tout à l'heure, avec un violon et un pianiste qui étaient très droits, très propres, mais qui finissaient par endormir tout le monde. Là, on a des subtiles variations en permanence. On a envie d'écouter chaque note. C'est formidable.
Oui, puis il y a beaucoup d'émotions. Enfin. Oui.
Il y a beaucoup d'émotions. Il y a une variété, effectivement, dans le vibrato, mais aussi dans les passages qui se répètent, une grande variété de phrasés. Ils ne font jamais deux fois la même chose. C'est assez extraordinaire pour ça. Et je trouve que la sonorité du violon, et alors là, vraiment, d'une luminosité, d'une franchise, les attaques sont franches, nettes.
Ah, c'est la perfection.
Ouais. La perfection n'est pas de ce monde, Bertrand, si elle était de ce monde, ça serait peut-être ça. Oui,
elle y était au moment où on a écouté.
Oui.
Bon, bah, alors, on va voir la quatrième, ça va être assez dur pour la quatrième, pour le coup. Je ne sais pas si c'est le fait d'écouter la quatrième après la troisième qui nous attend plus, mais moi je suis très déçu par l'écoute de cette nouvelle version. Non, Xavier, vous n'êtes pas d'accord ? Ça vous plaît ? Vous l'avez choisi ?
Ça me plaît. Ça me plaît. C'est effectivement moins rêveur, moins mélancolique que la précédente.
Bah c'est surtout moins mystérieux. Vraiment de dialogue, non ? Il n'y a pas
effectivement un grand dialogue. Le violoniste domine. C'est le en grand maître.
On dirait un concerto de Beethoven.
Et
enregistré comme on le faisait dans les années 50 avec le violon bien en avant et puis l'orchestre.
Dans le concerto de Beethoven, il faut dialoguer justement. Si on ne dialogue pas, c'est fini. C'est vrai que, bon, il y a un petit déséquilibre, mais là aussi, est-ce que ça ne vient pas de la prise de son ? Encore que le.
Si, mais bon,
que le violoniste. Oui, bien sûr. Que le violoniste joue ça en grand maître, quoi.
Oui, c'est ça, oui, c'est le grand numéro de violon, qui est d'ailleurs très très beau dans le
c'est
genre.
C'est un très beau violon, qui varie bien, il n'est pas monotone, lui, on ne s'embête pas à écouter ça.
Oui, c'est une émission très franche, très belle,
brillante, bien
sûr. Mais c'est un vrai problème, le déséquilibre avec le piano, parce que je le disais en antenne, on n'entend pas du tout l'harmonie, les accords qui accompagnent le violon. On a l'impression que le violon est en apesanteur, comme ça, on ne sait pas très bien où il va. Une espèce de monologue presque atonal au début, en tout cas, j'ai été frappé par ça, moi. Et je pense que c'est un vrai contresens par rapport à la sonnette, quoi.
Ouais.
Bon. On est un peu déçus, sauf Xavier, mais...
Non, je ne sais pas...
On comprendra. Ça a du charme,
Je suis déçu par rapport à la précédente. Ça,
voilà,
c'est,
on est d'accord.
Oui, c'est un peu sévère de l'avoir passé après la
c'est
précédente.
C'est sûr, mais ça, c'est Xavier, ça. Alors, la cinquième.
Pour trouver... Thank you.
version 5, assez différente peut-être des autres, parce que déjà plus vive dans le tempo.
Oui. Un tempo plus rapide, oui. Ça, c'est certain.
Absence de climat, peut-être.
Pas chez le violoniste, quand même, faut
pas
exagérer.
Chez le violoniste.
Il y a surtout un pianiste accompagnateur, oui. Au sens strict du terme, qui fait pas grand-chose, qui se dépêche quand il a tout seul la parole pour que le violoniste revienne sur le devant de la scène.
Ça, c'est vraiment, sonne un peu étriqué. Hein,
c'est vraiment très dommage. C'est vraiment très dommage parce qu'on a un violoniste qui a très envie de jouer dès les premières notes, ça se sent. Il est à la fois grand seigneur et très subtil, avec un magnifique grain, je trouve.
Et puis, très passionné. Oui, on écoute beaucoup plus passionné que mystérieux, je trouve.
Oui, mais on n'arrive pas justement à percevoir ce sentiment, surtout l'extrait, je trouve.
Parce moi, à la fin, j'écoutais plus que lui, j'étais complètement...
Moi, je me suis un peu focalisé sur le piano, au contraire, en m'énervant un petit peu, en trouvant ça manque de profondeur.
Ça manque un peu de profondeur.
De profondeur de chant, oui.
Oui, de complètement. Oui. D'autant plus que la prise de son n'est pas trop, je trouve.
Elle est un peu étriquée. Elle est un peu étriquée, oui.
Non, c'est d'accord.
Le piano est complètement loin, affreux. Enfin, il n'existe pas.
Il y a trop de réverb de toute façon.
Mon cerveau a pris le parti au bout d'un moment de plus écouter que le violon. Quoi. Et c'est pas mal quand on écoute que le violon.
Quand on écoute que le violon, c'est beau. Ça, c'est...
Donc c'est une belle version, mais pas aboutie, moi, je trouve, pour résumer ce qu'on vient d'entendre.
Dans ce mouvement, oui.
Dans ce mouvement.
Je trouve que c'est pas.
C'est dommage.
C'est pas ce qu'il y a de mieux.
Il y a un potentiel, mais qui n'est pas exploité. Alors on va écouter la sixième maintenant.
Thank you.
vient d'entendre donc la version numéro 6. Moi, je trouve qu'on a à nouveau l'intensité, le dialogue, les climats, le discours qu'on avait dans la version numéro 3.
Oui, tout à fait.
Quelle différence vous feriez, Xavier, par rapport à la troisième ?
Ah, c'est plus... Il y a un violoniste... c'est la parfaite musique de chambre, je trouve, là. Il y a plus de prise de risque dans celle-là que dans l'autre. Hein. Prise de risque pas technique, hein. Il n'y a pas de... je sais pas...
Musical.
Oui.
C'est plus dialogué,
musical,
là.
Stylistique, hein, je dirais. Ouais. Et je trouve ce qu'il y a parfait, c'est que... on a toujours l'impression que le piano pose une question et que la réponse du violon est toujours la bonne. C'est quelque chose de... C'est vraiment de la musique de chambre, quoi. Mmh.
Hein, la musique de chambre, mais pour Carnegie Hall, hein.
Avec quelques, je dirais, excès qui sont quand même pas gênants. Faut penser que c'est justement, c'est pas enregistré au Carnegie Hall, hein, mais faut penser que c'est une version de récital, de concert. Hein.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est une version qui est assez passionnante. Par rapport, c'est une bonne idée d'essayer de comparer ça avec la version 3.
La 3.
Mais c'est quand même une version qui est sérieusement plus démonstrative. C'est pour ça que je parlais de
Carnegie
Hall.
Oui, bien sûr.
Hein, bon, il y a une entrée en matière du pianiste, par exemple, qui est tout à fait remarquable, mais qui est presque trop, justement, sophistiquée.
Il y a du rubato sur chaque...
Voilà, ça manque de simplicité, mais c'est tellement génial comme utilisation en général de l'instrument, aussi bien du pianiste, mais aussi du violoniste, qui fait quand même un numéro de maîtrise de son instrument, et puis aussi de recherche de toutes les possibilités de son instrument, en faisant un petit peu trop parfois. Il y a quand même une liberté, c'est ça qu'il y a de bien.
Il y a beaucoup de liberté.
C'est qu'on n'a pas l'impression que c'est
oui, puis
hyper
tout est cohérent
travaillé.
Et logique, enfin.
Oui,
parce
oui,
que
oui, voilà.
Le risque de ce genre de version, c'est qu'on arrive dans le n'importe quoi.
Oui, alors qu'on a un sentiment de construction.
Et là, le fait que le dialogue avance entre les deux instruments, on a l'impression d'un discours cohérent, enfin, sans aucun problème. Et la prise de son live ne gêne pas, pour le coup.
Non.
Elle est moins déséquilibrée.
Moins déséquilibrée que dans la version...
Même la 5, par exemple.
5,
ouais, surtout. Enfin, cela dit, je continue quand même à préférer la 3, parce qu'il y avait une espèce de simplicité, justement, dans l'émotion, qui me semble mieux correspondre.
Une forme de classicisme qui est peut-être plus facile à écouter.
Oui. Enfin, c'est aussi une façon de faire vivre le sentiment qui me semble mieux correspondre à l'œuvre et
plus
qui est aussi plus belle. Oui.
Alors la 7 maintenant. Thank you. vraiment une très belle version. Là, moi, ce qui me marque, c'est la cohérence qu'on a entre les deux instruments, c'est et puis le caractère pudique qu'on n'avait plus trop trouvé, notamment dans la sixième, qui était beaucoup plus démonstrative. Là, on retrouve
ça, c'est de la musique de chambre, Xavier.
Voilà. Là, c'est de la musique de chambre. Mais les autres aussi, c'est de la belle musique de chambre. Hein, faut pas.
Mais Eric est nostalgique de la princesse de Polignac.
Mais je trouve qu'on retrouve un peu l'atmosphère qu'on avait dans la première version.
C'est pas très éloigné, oui, c'est vrai. Douceur, tendresse.
Douceur, tendresse.
Simplicité dans l'émission.
Sérénité.
Moi, j'ai noté dimanche de pluie dans l'Indre. On s'ennuie un peu, mais c'est beau.
Mais je trouve que c'est vraiment le caractère de l'œuvre. Et puis surtout, il ne fait pas de chichi.
Il n'y a pas d'excès.
Donc, exactement.
Non, puis c'est d'une grande cohérence. Le solo piano, là, est bien rendu. Changement de tempo intempestif.
Il est très beau.
Il prend son temps, il se développe bien et il y a une belle sonorité.
Il laisse jouer la musique, quoi, tout simplement. Cette musique, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. C'est déjà une musique qui est extrêmement passionnée, extrêmement nourrie harmoniquement. Si on la laisse s'exprimer, tout de suite, elle
part. Je regrette juste le caractère un peu artificiel de cette prise de son.
La prise de son, est un peu gênante. Beaucoup de réverbération.
Non plus, non. C'est un petit peu dommage. Oh. Écoutons la huitième.
Thank you.
Oui, moi, je trouvais que c'était une version d'une grande simplicité, très émouvante. Ce qui m'a un peu gêné au départ, c'est le violoniste qui est un peu trop présent, mais le piano revient bien. Et je trouve que le pianiste a un toucher très subtil, très varié, comme du reste la sonorité, la façon qu'a le violoniste de varier ses sonorités sur tout le registre de son violon, et de varier également énormément son vibrato. C'est très simple en définitive, et moi je trouve très touchant, très émouvant.
Je suis d'accord avec vous. Et puis ce qu'on remarque par rapport à d'autres versions, c'est le violoniste parvient à faire des grandes lignes.
Oui, oui.
Sur la distance, et ça c'est
très chante bon, d'abord et avant
tout. C'est un grand violon chanté.
C'est le chanté, oui.
Hein, moi je trouve, bon, c'est très bien, je trouve l'entrée en matière du pianiste est vraiment très belle. Il donne ensuite la parole au violoniste, ça c'est sûr. Bon, faut dire, il y a quelques accords qui font ploum ploum un peu derrière, mais donc c'est un peu difficile de faire vraiment vivre ces accords. Mais ce que j'ai bien aimé, effectivement, si c'est un tempo un peu fluctuant qui bouge tout le temps, mais avec une grande logique. Moi, je trouve surtout que c'est très vivant, quoi. On a l'impression qu'il parle vraiment à la première personne quand il s'exprime, le violoniste, je veux dire. Oui. À la longue, je trouve que, je vais être méchant, hein, mais ça pleurniche un petit peu. Si on pouvait donner un défaut, peut-être qu'au bout d'un moment, j'ai eu l'impression tout de même qu'on était un peu dans le même registre de sentimentalité.
C'est peut-être moins varié que d'autres versions qu'on a écoutées.
Ben, on est un peu entre les deux, oui, entre celui qui va jusqu'au bout vraiment.
Oui, c'est pas l'expression. C'est pas à 100%, mais bon.
Et la grande simplicité, par exemple.
C'est pas la sixième. Hein.
Mais bon, on est là pour comparer. Bon.
Oui, oui.
Voilà. Alors écoutons la neuvième.
Thank you.
pensé de cette version numéro 9 ?
Ben, j'ai eu un peu le même sentiment que dans la version numéro 5, même si c'est pas du tout le même violoniste, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on n'a plus du tout envie d'écouter le piano, et on l'écoute plus d'ailleurs, parce qu'il n'a pas grand-chose à dire, il est très scolaire. Mais alors, quel violon ! Enfin, moi, en tout cas, c'est le genre d'archet que je trouve absolument extraordinaire, tranquille, tranquillement posé sur ses cordes, qui gagne peu à peu en intensité, qui sert formidablement bien des cordes intermédiaires aussi, et pas seulement de la grosse corde de sol et de la jolie petite corde de mi en aigu. Vraiment, c'est très touchant, c'est très impressionnant, et violonistiquement...
D'une extrême clarté.
C'est très franc comme attaque.
Oui.
C'est très beau comme ligne de chant de violon.
Mais là, vous ne parlez que du violon, c'est vraiment de la version,
mais,
parce que c'est bien d'avoir une démonstration
la,
de beau
la
violon.
Version, la version, pas, je trouve, moi, qu'il ne cherche pas à faire du beau, comme dans la version précédente, hein, et que, en définitive, ils y arrivent. Mais ils y arrivent à un moment donné où ça manque un peu de...
Le piano.
De variété. De,
c'est vrai.
Mais même de variété, je dirais, dans le jeu.
Non, enfin, moi, je trouve que c'est une version ratée dans ce sens-là. Hein. Enfin, si on veut écouter la sonate de Franck, je pense qu'il ne faut surtout pas découvrir
oui,
par cette
sûr.
Version-là.
Non.
Si on veut écouter du beau violon...
Aucun s'intéresse à Violonix X, que seul Xavier connaît, mais nous n'avons pas reconnu. Mais bon. Alors, on a encore une version à écouter, c'est donc la 10.
La 10.
Thank you.
Ben oui, parce qu'on n'a pas envie de parler que du seul violoniste. J'ai même presque noté rien de particulier sur le jeu du violoniste, parce qu'on a d'abord envie de parler de musique.
Oui, mais
on a envie de parler de musique. On a envie de constater que ce tempo assez rapide là est plutôt justifié, parce que paradoxalement, ça leur permet d'avoir une certaine simplicité dans l'émission. On a aussi et surtout un pianiste qui sait vraiment, notamment quoi faire de ses accords dont je disais qu'il faisait un peu ploum ploum tout à l'heure. Là, il arrive à leur donner à la fois de la légèreté et de la présence. Et puis, il s'empare du texte. Hein. Il fait des choses qui ne sont pas nécessairement exactement notées dans la partition, mais qui lui donnent un sens. Et puis, on a aussi un violoniste qui arrive à se faire discret, ce qui est quand même assez rare dans les versions qu'on a entendues.
Quand il le faut.
C'est-à-dire qu'il laisse la parole au pianiste. Mais aussi un violoniste qui maîtrise parfaitement son sujet.
C'est le dialogue. Hein, c'est le dialogue parfait, je trouve.
Pour moi, c'est exactement ce que j'attends dans la sonate de Franck.
Ah oui, tous les phrasés sont d'une intelligence.
Oui, je trouve que c'est la version par excellence réfléchie, pensée. On a vraiment l'impression que les deux, avant de jouer ça, ont étudié la partition sur table.
Oui, puis ils ont certainement joué avant de l'enregistrer.
Voilà.
Hein. Ils ont vécu avec ça.
Vécu avec, ça c'est.
Enfin, en tout cas, c'est le résultat qu'on entend. Oui.
Et on peut pas dire, comme dans la version précédente, qu'il y en a un qui joue mieux que l'autre.
C'est parfaitement équilibré.
Il y a quand même un ton général, je trouve, de... Les Anglais diraient understatement, c'est-à-dire qu'on veut pas juste... On fait exprès de pas trop en faire.
Pas trop en faire.
Disait à propos d'une autre version que cette musique peut, si on la laisse jouer d'elle-même, elle laisse passer la passion et les sentiments qu'il peut y avoir dedans, même s'ils sont parfois un peu jaunis, un peu anciens. Mais on est content de les retrouver, et là, je trouve que c'est exactement la démonstration de ça.
Exactement ça. Bon, ben on en a fini donc avec le premier mouvement, maintenant on va passer au second. Alors Xavier, deuxième mouvement, cette première version.
Je trouve des climats très très divers. C'est très beau, c'est très tragique au départ, très dramatique
oui,
de la part des deux. La prise de son est ancienne, mais je trouve qu'elle n'est pas gênante. Il y a une belle cohésion entre piano et violon. Et on passe très, très logiquement de cette véhémence du départ à beaucoup de tendresse dans le second thème. Je trouve ça vraiment, pour moi, c'est pas évident, mais c'est pas la version d'un naturel évident, mais je trouve ça vraiment très très beau.
Eric ?
Non, moi j'ai été un peu déçu là. Je trouve que pour le coup, la prise de son quand même fait un peu de mal à cette version. La mono, je la trouve difficile quand même, parce que ça manque quand même furieusement d'air. D'autant que le pianiste est quand même pas toujours à l'aise, il se déploie pas vraiment, je trouve ça un peu dommage. Ça rend pas justice. Il y a un côté quand même, là pour le coup, virtuose, il faut entendre des doigts aussi
romantique,
bien au piano
que
violon.
Romantique.
Oui, mais même
le côté
virtuose.
Violon aussi.
Oui. Et on l'entend pas tellement. J'ai trouvé aussi le violoniste un peu systématique dans son vibrato dans la première partie. On est un peu toujours sur le même plan. On se l'a dit, c'est très vivant, c'est très impliqué, ça fait très
un
plaisir
peu sentimental,
à entendre.
Moi, je trouve que ça flotte un petit peu quand même dans le deuxième thème. Le côté élégiaque est un peu larmoyant.
Un peu facile.
Mais bon, peut-être qu'on aura mieux, peut-être avec la version numéro 2 qu'on va entendre tout de suite. La deuxième version, deuxième mouvement. Moi, j'avoue que j'avais déjà pas tellement aimé le deuxième mouvement, mais alors là, c'est carrément le rejet total.
Là, on est, le violon est pratiquement dans le mauvais goût, avec un pseudo Jean Tsigane qui a vraiment rien à faire ici, je trouve. Le pianiste, en plus, est un peu raide.
C'est
vraiment ce qu'il faut pas faire. C'est vraiment un peu le contre-exemple. Et en plus, il n'y a pas d'ensemble entre les deux. C'est chacun dans sa pièce qui joue sa partition. Il n'y a pas de couleur, en plus. Je ne sais pas si ça vous a frappé.
Il n'y a pas de film.
Non, c'est... C'est pas bien, on n'est pas content.
Non.
Alors on va passer à la troisième.
Thank you.
Monsieur, j'ai l'impression que vous êtes un peu déçu par rapport à... au premier mouvement.
Par rapport au premier mouvement, tout à fait. Tout à fait.
Alors pourquoi, c'est pas... Xavier ?
Je trouve que ça, c'est très rapide, ça ne respire pas beaucoup. Ils ne sont pas... violon et piano, on a l'impression qu'ils ne jouent pas la même chose. Tous les deux. C'est... Moi, ça avance pas de la même façon.
Oui, ça manque d'osmose, effectivement.
Hein, ça manque d'osmose et ça manque de climat, même.
Ça manque d'assises rythmiques. Je pense que c'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils sont pas ensemble.
Oui.
Le violoniste n'a pas du tout d'assises rythmiques dans toute la partie rapide. Après, dans le più lento, on les retrouve. On retrouve un peu le climat du premier mouvement. Mais je pense qu'ils sont un peu dépassés par l'événement. Ou alors qu'ils ont une façon, le violoniste surtout, a une façon d'aborder les choses qui est un peu, en gros, à l'abordage, on fonce et puis on verra bien ce qui arrive. Et merci, gentil pianiste, de me suivre, quoi.
Oui, donc le résultat est décevant pour le coup.
Le résultat est un peu décevant par rapport au premier mouvement, quoi.
Version numéro 4. C'est la version numéro 4. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux que dans le premier mouvement, bien qu'on soit toujours pas dans le véritablement dans le climat qu'on peut
c'est
attendre
pas dans le
de ce mouvement-là.
Oui, c'est pas dans le climat souhaité, mais c'est quand même... Moi, j'ai été moins déçu par cette version que dans le premier mouvement.
Disons que l'aspect démonstratif passe mieux, là.
Passe mieux là-dedans.
Mmh. Oui, et puis je crois que ce violoniste a un grand talent, c'est celui de déployer des grandes mélodies sur la longueur. Il va très loin. Et donc, on a moins ce sentiment qu'on a pu avoir dans les versions qu'on a entendues avant, de quelque chose de bousculé.
Un archet très rapide et très long.
Ouais, très vraiment, très long. Et puis, il y a une pleine plénitude du son aussi. Oui. Et là aussi, dans ce mouvement rapide, où on pourrait avoir parfois des sons un peu agressifs, comme on l'a entendu par exemple dans la deuxième version, chose qui s'étale bien, il prend
ça
bien possession de l'espace. Voilà. Le pianiste reste pas l'eau, hein, c'est sûrement un peu la prise de son aussi. Mais...
Oui, mais du coup, on n'a pas vraiment le climat qu'il faudrait. Mais...
Voilà, c'est pas le...
On rappelle que c'est un live.
Ouais.
Et on va écouter la version numéro 5. la cinquième version, pardon, moi je trouve qu'on retrouve les mêmes défauts accentués encore qu'on avait entendu dans le premier mouvement, c'est-à-dire une version qui est sur un ton univoque. Oui. Il semble prendre une décision au début du mouvement de jouer dans un ton et de plus changer après.
De plus changer.
Il n'y a pas de contraste.
C'est très romantique, mais c'est tout le temps très romantique.
Le deuxième thème est joué comme le premier, voilà. Sans contraste. Ça file beaucoup. Tout droit, il n'y a pas de couleur.
Oui.
C'est décevant. Hein.
Oui, le pianiste aussi, il n'y a pas grand-chose. Oui. Il est même assez prosaïque, je trouve. C'est dommage parce que le tempo pas trop rapide au début laissait penser que le violoniste allait pouvoir prendre la parole.
Et bien s'emparer des choses. Mais non, en fait.
Mais non, il n'y a pas d'intensité, effectivement.
Bon, on est déçus. Alors, on va écouter la sixième. Sixième. C'est vraiment amusant d'écouter cette version numéro 6 après la cinquième. Alors là, c'est l'opposé total. C'est-à-dire qu'on est dans une version qui est ultra expressive, très contrastée, romantique.
Avec un pianiste qui a envie de jouer.
Oui.
Et qui sait jouer.
Un violoniste aussi.
Oui.
Qui sait jouer.
Peut-être un peu trop même, mais bon.
Oui. Mais on trouve en définitive les mêmes qualités, les mêmes défauts que dans le premier mouvement.
Oui, c'est, ça a les défauts de ses qualités.
Voilà. On peut dire que c'est la première version qu'on entend où il y a... Il n'y a pas un climat, mais des climats.
Il y a des climats, puis il y a le caractère.
Il y a
des sentiments.
Toujours,
on est dans une version qui est très dans le discours et très dans l'énonciation de sentiments comme ça au premier degré.
Oui, c'est un peu la version coup de poing, quoi. Mais c'est très efficace dans le genre. C'est un peu systématique, quand même, notamment dans les attaques du violoniste.
Ah, c'est des attaques. Il a toujours des attaques très franches, très.
Oui, mais c'est un style, à la limite.
Oui, c'est.
Moi, je trouve ça très cohérent.
Oui, c'est très cohérent.
On a envie vraiment d'écouter en entier, là, pour le coup. C'est la première version, la sixième, là, de ce deuxième mouvement. C'est la première, moi, qui me...
Excitante, quoi.
Oui, voilà, qui donne envie d'écouter la suite. Alors, on va quand même pas écouter la suite, mais la septième. Aïe, je trouve qu'on est un petit peu déçu par rapport au premier mouvement. C'est scolaire. Très métronomique, très scolaire, appliqué.
Moi, je trouve que le pianiste laisse pas au violon.
Le violoniste.
Il laisse pas le violoniste s'exprimer.
Ah, il le laisse pas décoller même. Il l'attache au sol. Le violoniste n'arrive pas.
Hein. Oui, c'est frustrant. Oui. Oui.
Bon, alors.
Il n'y a pas d'envolée là-dedans. Aucune.
On a tout dit. On va passer à la huitième. Très dur, hein, ce mouvement, Eric.
Oui, bien sûr. Bon, alors déjà, il y a un... Excusez-moi de toujours commencer par le pianiste, mais c'est tout de même important. On a un pianiste qui fait un peu n'importe quoi, qui se précipite.
Ça part dans tous les sens.
Exactement, qui n'est pas stable, qui enfonce ses basses par moments, on ne sait pas très bien pourquoi. Et puis par-dessus, on a un violoniste, j'allais dire un soliste, c'est typique, un violoniste qui a une sonorité vraiment magnifique, même dans le fortissimo, il garde une cohérence dans la projection du son qui est exceptionnelle. Mais le problème, c'est qu'il ne joue que sur la dynamique, c'est-à-dire que c'est cette même plénitude sonore qui va du pianissimo au fortissimo, mais il n'y a pas de jeu de couleurs, il n'y a pas de jeu d'attaque.
Non, du coup, ça ne change pas tellement. Hein.
Mais là aussi, c'est comme dans la version précédente, on a l'impression que c'est le pianiste qui gêne le violoniste.
Peut-être, oui. Enfin, je trouve quand même le violoniste assez systématique dans son...
Oui, il est systématique.
Il ne s'est pas fatigué
non,
quand même.
Non.
J'imagine que c'est un très grand violoniste.
Version frustrante.
Oui.
Comme la précédente, là.
C'est comme la précédente, pour moi.
La version numéro 9. c'est la version numéro 9. On retrouve une sonorité magnifique, plus claire évidemment que la précédente. Est-ce que vous êtes convaincu finalement?
Pas totalement.
Pas on l'a pas préparé.
Merci Xavier.
Pas totalement, mais je dirais que j'ai préféré ce mouvement-là au premier mouvement dans cette version. Il y a plus de cohésion, il y a plus de climat, et ça avance. Et il y a de très beaux passages, alors aussi
d'une
bien au piano,
oui.
Intensité, aussi bien au piano qu'au violon.
Il y a une chose qui m'a frappé au début et que j'ai fini par oublier, c'est une espèce de curieuse alternance entre stabilité et instabilité.
Oui, ça donne un petit côté haché. On a l'impression qu'il y a des parties de la partition qui séparent comme ça, qui mettent à
exactement.
Il y a un petit côté séquentiel quand même, moi j'ai noté. Un petit peu trop peut-être.
Mais alors on a un violon, le mot qui m'est venu c'est éloquent. Un violon qui nous parle sur chaque mot.
Il parle plus qu'il chante.
Exactement, et du coup on a vraiment envie de le suivre.
Oui. C'est une des plus belles versions, du coup, qu'on ait entendues.
Oui, là, oui.
Puisqu'on a été déçus pratiquement par toutes les versions, celle-ci, les moins. Alors, la dernière, qui nous avait tant plu tout à l'heure. Est-ce que vous êtes aussi enthousiaste que tout à l'heure?
Toujours autant.
Alors pourquoi?
Toujours autant. Je trouve que le pianiste est d'une clarté éblouissante au départ. Ça, c'est quelque chose de... Et il y a chez lui quelque chose qu'on n'entend pas chez les autres. Des notes qu'on n'entend pas chez les autres. Je trouve que c'est toujours aussi évident comme musique. On se dit, pourquoi les autres ne jouent pas comme ça?
Oui, voilà. C'est vrai. Non, Eric, vous n'êtes pas d'accord.
Moi, c'est un tout petit peu déçu par rapport au premier mouvement. J'ai aussi évidemment constaté, je crois comme tout le monde, ce côté d'évidence qu'on entend toujours, cette présence du piano qui relance en permanence, qui prend la parole par-dessus le violon parfois, et ce qui est tout à fait dans l'esprit de l'œuvre, à mon sens, et qui fait qu'on entend des facettes de l'œuvre qu'on entend chez nulle part, dans aucune autre version. Mais pour le coup, on est un peu dans le problème inverse de certaines autres versions. On a un peu l'impression que c'est le violoniste qui est un peu prudent avec la barre de mesure, je trouve. et qui est peut-être un tout petit peu sage. En même temps, c'est à l'évidence...
On a le caractère quand même, en fait.
On a le caractère, oui.
Entre nous, c'est quand même ce qu'on a entendu mieux maintenant, cette dixième version.
Oui, mais on aimerait bien un tout petit... Moi, j'aimerais bien un tout petit peu plus de flamme quand même. Et un peu plus aussi de variation dans les couleurs. C'est un très beau violoniste. On a entendu des choses tellement extraordinaires avant, en termes de qualité violonistique et de subtilité, que là, c'est peut-être un poil un ton en dessous.
Moi, je trouve qu'il y a de très belles images et une variété d'images.
Et puis, il y a une volonté de simplicité, par ailleurs.
Oui, il est très simple.
Voilà.
Très simple, évident, quoi.
C'est les qualités de ses défauts.
Bien sûr, on ne peut pas tout avoir.
Alors maintenant, on va écouter donc le troisième mouvement.
Cobuzz.com. L'écoute comparée, Classica. Animé par Bertrand Dermoncourt.